Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, retour de votre podcast préféré après une somme toute longue coupure qui coïncidait avec les fêtes de Noël. Alors les fêtes de Noël élargies, hein, puisque je vis désormais en Espagne, et en Espagne, on fête entre guillemets Noël jusqu'au 6 janvier, qui est donc le moment où les rois mages sont venus offrir leurs présents à l'enfant Jésus. Donc en Espagne, c'est à ce moment-là que les enfants reçoivent leurs cadeaux, c'est le 6 janvier. Donc j'avais une semaine de décalage et je voulais faire toutes les fêtes de Noël, celle de la tradition française avec le Papa Noël, qui est en réalité bon, une fabrication Coca-Cola, hein, ça serait plutôt Saint-Nicolas. Mais c'est vrai qu'en France, on a plus l'habitude de fêter Noël le 24 au soir. De recevoir les cadeaux le 24 au soir, ou le 25, la journée du 25 au matin. En Espagne, si vous voulez, les enfants donc ont une petite fête, un petit truc, un petit cadeau le 24 au soir ou le 25. Et ensuite, ils reçoivent les gros cadeaux le 6 janvier. Qui est donc la tradition des rois mages, voilà. Donc c'est un gros truc en Espagne, donc je voulais assister aux deux, le Noël en France et les rois mages en Espagne. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que vous avez une très très longue coupure et que je ne reviens qu'aujourd'hui avec ce nouvel épisode de Burger Ring. Alors, un épisode qui va être spécial, c'est un épisode que je vais dédier à la mémoire de Jean-Marie Le Pen, personnage extrêmement haut en couleur, absolument détesté par les uns, vénéré par les autres. On va essayer de démêler tout ce qui a été dit, toute la légende autour du personnage, le vrai du faux, ce qui est son réel parcours, différencier ce qui tient de son réel parcours et ce qui tient de des accusations médiatiques et des montages contre lui. Donc on va parler de tout ça. Et puis j'ai eu la chance de le rencontrer via l'entremise de Julien Rochdy, qui m'avait amené chez lui, voilà. Donc j'avais passé une après-midi en compagnie de Jean-Marie Le Pen, et j'ai été absolument subjugué par l'ampleur du personnage, la culture du personnage, une énergie que j'ai rarement vue chez des hommes de cet âge-là. Et je vais vous en parler tout ça. J'ai envie de vous en parler parce que le personnage m'avait fait une impression vraiment puissante. Et j'ai vraiment eu la chance et la sensation d'être face à un véritable morceau de l'ancienne France, avec tout ce qu'elle peut avoir de rustique, de rude, voire de rugueux, mais aussi de fin, de bon, de magnifique et de très seigneurial finalement, parce que c'est un personnage que je trouve absolument noble, et je vais en parler, voilà. Alors, écoutez, en fait, ce qu'on va faire, vous savez que je déteste les choses structurées. Enfin, c'est pas que je déteste les choses structurées. J'ai beaucoup de mal à travailler de manière structurée. C'est toujours des performances. C'est un flow qui sort comme ça. Jamais rien n'est préparé. Donc, je vous prie de m'excuser par avance si il y a des petites inexactitudes ou que c'est un petit peu décousu. Vous savez que j'ai un esprit à tiroir. J'ouvre un tiroir qui me fait rappeler qu'il y a quelque chose dans l'autre tiroir. Donc, j'ouvre des tiroirs de partout. Et des fois, je perds le fil. Donc je vais vous demander d'être bon. De toute façon, vous me connaissez, vous connaissez mon style de travail, ma façon de faire. Donc je vais vous demander de me passer peut-être les côtés un peu décousus de l'analyse et de l'hommage que je vais faire à ce grand monsieur politique français qui nous a quittés donc à l'âge de 96 ans. Alors déjà, il faudrait que je vous rappelle un petit peu avant de rentrer vraiment sur l'aspect biographique de Jean-Marie Le Pen, le rapport que les gens de ma génération ont avec Le Pen. Il faut savoir que Jean-Marie Le Pen a représenté tout au long de sa vie, il a eu d'ailleurs beaucoup de courage et beaucoup de ténacité pour tenir cette place, il a représenté vraiment le diable, le mal absolu de la 4e et de la 5e République, alors surtout la 5e, c'est vraiment là où il va être le plus... vilipendé médiatiquement, on va vraiment s'en prendre à lui très régulièrement de manière très gratuite, en exagérant ses propos évidemment. Alors, je suis content de pouvoir défendre Jean-Marie Le Pen en 2025 parce que il y a une large partie du public qui sait maintenant à quel point les médias peuvent manipuler la vérité, peuvent fabriquer des cabales et des, comment on dit en, chez les anglo-saxons, des caractères assassination, donc des assassinats de personnalités médiatiques, enfin via l'arme médiatique, pour les décrédibiliser et les inonder de négativité. Défendre Jean-Marie Le Pen en 1995, en 1998, c'était proprement impossible, parce que déjà, la France n'avait pas connu encore les prédictions qu'il avait faites, ou en tout cas, c'était les prémices. Là, aujourd'hui, nous vivons dans la France qu'a professé Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Donc ça, on ne pourra pas l'enlever. On ne pourra pas l'enlever. On a vraiment les problématiques dont il avait parlé. On a les problématiques qu'il avait annoncées de manière tout à fait prophétique il y a 40 ans. Donc quand même, c'est pas rien. Il y a peu de gens qui peuvent se targuer d'avoir fait des prédictions politiques aussi... aussi puissante, aussi visionnaire. Donc, si vous voulez le défendre en 98, en 95, en 99, c'est impossible. Jean-Marie Le Pen est enseveli sous un amas de mensonges, d'accusations peu fondées et de répétitions de ces accusations. En fait, je vous dis tout ça parce que moi, je l'ai vécu, donc je connais le protocole. On va par association vous salir, donc ce n'est pas vous, mais vous êtes en lien avec un tel qui a fait ça, donc en fait vous êtes un peu coupable de ce crime. On va répéter ça, donc finalement on va avoir l'impression qu'on est face à un personnage qui déborde de vices, qui déborde de déboires, alors qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés parce qu'ils ont cherché donc les phrases, les fameuses phrases extrêmement racistes, les déclarations choc de Jean-Marie Le Pen, et en fait, ils ont trouvé très peu de choses à se mettre sous la dent. Ils n'ont pas trouvé plus de provocations chez lui, parce que c'était des provocations. Il a dit des choses, évidemment, il a dit des choses extrêmement provocantes. C'était un tribun, c'était un personnage tonitruant, c'était un ancien soldat. Donc, c'est quelqu'un qui a vu des choses absolument terribles. Donc, évidemment, il n'avait pas le côté policé qu'il y a chez certains politiciens, qui sont d'ailleurs bien plus vicieux et bien plus salauds dans leurs agissements que Jean-Marie Le Pen, et qui, eux, évidemment, n'ont jamais été inquiétés parce que ils cachaient leur racisme et leur manigance et leur satanisme derrière une cravate, si vous voulez. Donc, parce que ça me fait beaucoup rire, là, l'explosion de joie qu'il y a eu à la mort de Jean-Marie Le Pen. Les gens oublient que Mitterrand a eu des hommages nationaux, alors que Mitterrand est une ordure, mais une ordure de première, mais un criminel qui a beaucoup plus de sang sur les mains que n'importe quel Le Pen. Mais vraiment, je vous assure. Mais on va y revenir là-dessus, on va y revenir. Ça, je le mets de côté, on va y revenir, je vais essayer de rester structuré. Donc, défendre Le Pen en 2025, heureusement pour moi, c'est quelque chose de plus facile qu'il y a 30 ans, pour la bonne et simple raison qu'entre-temps, les gens ont pu voir sur d'autres thèmes à quel point les médias peuvent être menteurs, à quel point les médias peuvent s'acharner, à quel point les médias peuvent, de concert, fabriquer des chasses à l'homme de toutes pièces et manipuler la réalité. Alors, on va prendre pied à pied ce qui a été reproché par Jean-Marie Le Pen, parce que je ne veux parler de son parcours qu'une fois qu'on aura démystifié toute la merde qui a été dite sur lui. Ça, c'est très, très, très important, parce qu'en fait, il n'est pas possible de parler d'un homme sans commencer par le réhabiliter aux yeux des auditeurs. Ça, c'est très, très important. Je tiens à le faire. Alors, Jean-Marie Le Pen aurait fondé donc le Front National avec des anciens SS. Alors, il faut comprendre déjà, il faut mettre là-dedans du contexte, hein, et surtout, il faut donner toute la vérité et pas qu'une vérité partielle. Bon. Déjà, Jean-Marie Le Pen fonde le Front National, entre autres, parce qu'il n'est pas du tout au début du Front National, à la fondation du Front National, il n'est pas du tout son leader. Il est un des fondateurs du Front National qui regroupe en vérité un énorme éventail politique de l'époque. Vous avez ce qu'on a appelé les Poujadistes, donc qui était un mouvement paysan, ce qui serait aujourd'hui comparable à ce que fait par exemple Jean Lassalle. Voilà, c'est des comparaisons, c'est vraiment pour vulgariser le propos. Hein. Évidemment, il y a quelques différences, mais c'est vraiment pour vous donner une idée qu'on ne s'attarde pas sur des choses un peu pénibles. Bon, donc le Poujadisme est un milieu paysan, c'est pas du tout un mouvement avec des déportés racistes ou d'extrême droite, c'est un mouvement populaire extrêmement rural. Bon, ça c'est le Poujadisme. Ensuite, vous avez effectivement des gens qui sont issus de l'extrême droite, y compris de l'extrême droite collaborationniste, il faut le dire, c'est une réalité. Mais vous avez aussi, et c'est là où les médias sont d'infâmes manipulateurs, des résistants. des résistants qui sont de l'autre côté de l'échiquier politique, et notamment une résistante, alors j'ai oublié son nom de famille parce que j'ai rien préparé, hein, donc vous m'en voudrez pas, vous irez chercher sur Wikipédia, vous le trouverez. C'est une résistance qui avait sauvé des juifs pendant la guerre, qui a été résistante à l'occupation nazie, et qui a sauvé des juifs pendant la résistance, et qui a été, pendant la résistance, qui a été décorée pour ça, et un autre résistant, dont, pareil, j'ai oublié le nom, qui lui aussi a été décoré pour acte de résistance, donc qui ont, des gens qui ont lutté contre les nazis. Bon, alors la question immédiate qui se pose, c'est comment se fait-il qu'un parti peut réunir des gens qui sont aussi différents politiquement ? Alors c'est pour ça qu'il faut mettre du contexte. Il faut savoir que le Front National se fonde, il me semble, en 72, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas début des années 70, donc juste après la révolution trotskiste et maoïste de mai 68. Alors... là, on arrive sur quelque chose de très très important. Pourquoi est-ce que vous avez des gens de tous bords qui se réunissent pour essayer de faire une espèce de contre-révolution qui malheureusement va mettre plusieurs années, plusieurs dizaines d'années à éclore. Aujourd'hui, on est dans les résultats de ce qu'a amorcé cette contre-révolution. Ça, il faut que vous le sachiez. Si vous voulez, Le Pen a été l'homme qui, le premier, est venu troller la machine. Parce que ça a été un troll toute sa vie. Voilà, ça a été un troll. Et quand je dis ça... je ne le dis pas de manière négative ou péjorative, la Ve République était une institution, enfin la République, pardon, était une institution infaillible, et vous avez en son sein un homme qui a eu le courage de ne pas rentrer dans tous les petits trafics de loges, dans le système de franc-maçonnerie. Oui, parce que vous avez des politiciens qui s'affrontent sur l'échiquier politique en public et qui sont dans les mêmes loges et qui servent en fait les mêmes intérêts. Voilà, ça il faut le savoir. Lui n'a jamais trempé là-dedans et il a représenté, même si c'était de manière un peu provocante et sans que ça ait de réelle portée sur le plan politique dans la 4ème et la 5ème République, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup beaucoup de provocations pour remuer un petit peu, pour commencer à remuer un petit peu la doxa et la bien-pensance et ce qui était une pensée établie. C'est le relais qu'a pris ensuite Soral sur Internet. C'est le relais que d'autres ont pris ensuite, après la période Soral. Ou en tout cas, pour amener les gens, enfin pour recentrer les gens sur une pensée un peu moins à la croisée de la gauche et de la droite, comme a pu être le soralisme. Vous avez toute une génération après qui sommes en fait les descendants de Jean-Marie Le Pen. Il faut le dire, on est les descendants de Jean-Marie Le Pen parce que on a été... on a fait le même boulot que lui sur Internet. C'est-à-dire qu'on est venu, il y avait un monopole de la pensée, et on est venu troller cette pensée à grands coups de provocations plus ou moins inspirées, à l'image de Le Pen, des provocations plus ou moins de bon goût, à l'image de Le Pen, mais des provocations qui ont fonctionné, puisque la bataille d'Internet a été largement gagnée par la droite, et encore aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins actif, la gauche n'arrive pas à reprendre le pas dessus, c'est qu'il y a vraiment un coup énorme qui lui a été porté. Le même qu'elle avait porté à la droite en mai 68. Bref. Donc pour vous donner du contexte, on est au moment où la gauche la plus violente triomphe. Alors pour vous rafraîchir la mémoire, mai 68, c'est le triomphe du maoïsme. Le maoïsme, c'était l'exécution et l'expropriation des propriétaires terriens. C'était la torture des propriétaires terriens. Le trotskisme, c'était des révolutions extrêmement violentes à travers le monde. Vous aviez à ce moment-là quand même un communisme extrêmement violent qui était en train de se créer au Cambodge et qui a donné le massacre des Khmers Rouges, qui est un des plus grands massacres de l'histoire, d'accord ? C'est le pays où il y a le plus de charniers, le Cambodge, à cause des communistes, d'accord ? Et ça, le Kampuchea, donc c'est le camp, c'est le camp politique des Khmers Rouges, il existait depuis 1951. Donc vous aviez des horreurs qui étaient produites par le communisme et par la pensée marxiste, et vous aviez un contexte de guerre froide avec un Occident qui était un peu mou, qui était un peu perméable à ces idées-là. Vous aviez une jeunesse française, une jeunesse occidentale plus largement, qui était très perméable aux idées marxistes, aux idées trotskistes, aux idées anarchistes, et qui se sont mis à défendre des trucs qui étaient indéfendables. Pour rappel, Le Pen et ses collaborateurs, quand ils ont créé le Front National, ils l'ont créé au moment où Libération faisait la promotion de la pédophilie, où on voulait absolument généraliser l'avortement, généraliser dépénaliser la pédophilie, importer la révolution communiste en Europe en expropriant expropriant les gens, les patrons et puis même les gens. Bon, c'est à peu près ce qui est en train de se passer en ce moment, hein, quand t'es à 40% d'impôts, c'est ce qu'on appelle l'expropriation partielle. Bon, bref. Et donc, si vous voulez, le contexte était extrêmement violent. Staline avait fait des millions de morts, le communisme avait déjà fait des millions de morts, il était en train de mettre le monde à feu et à sang. Donc, si vous voulez, c'était un contexte qui appelait des réactions extrêmes. Et vous avez des gens qui étaient très différents sur l'échiquier politique, qui se sont coalisés parce qu'ils avaient tous la même peur de ce communisme, destructeur, de cet anarchisme destructeur, de ce maoïsme destructeur, et ils ne voulaient absolument pas que ça parvienne en Europe. Et ils voyaient tout le travail qui était fait par une gauche extrêmement agressive pour changer le visage politique de la France, et donc ils ont créé quelque chose d'extrême. Alors évidemment, ça a ramené des gens extrêmes, hein, des résistants, parce que un résistant est une personne extrême, hein. Je veux dire, la majorité des Français, ils n'ont pas bougé pendant la guerre, et ça se comprend, pour des raisons évidentes. C'est qu'en fait, quand vous êtes père de famille, que vous avez un business, aller prendre les armes contre des gens qui sont surarmés, tout, faut avoir vraiment beaucoup, beaucoup de couilles, et avoir un mental très spécial pour le faire. Voilà. Donc si vous voulez, ça reste quand même des gens extrêmes, hein, voilà, que ce soit des gens de gauche ou des gens de droite. Vous savez que la résistance au début, c'est essentiellement des gens de droite, puis très rapidement s'ajoutent des communistes, mais des communistes étrangers, pas des communistes français, parce que les communistes français, ils obéissent au PC, et le PC, au début de la guerre, 39-45, obéit à Moscou, et Moscou était allié des nazis. Jusqu'à l'opération Barbarossa, qui est en fait l'opération d'invasion de la Russie par les armées d'Hitler, par le Troisième Reich, jusqu'alors, il y avait ce qu'on appelait le pacte de non-agression entre nazis et communistes, et le parti communiste était officiellement allié du Troisième Reich. La réécriture de la résistance à la Seconde Guerre mondiale est une falsification historique de masse pour faire oublier que les communistes étaient alliés des nazis, étaient alliés d'Hitler. Les véritables résistants au début de la guerre, ce ne sont ni les communistes ni les nazis, ce sont les Français patriotes nationalistes et les communistes étrangers qui n'obéissaient pas au PCF français et qui n'étaient pas, par exemple, staliniens, qui étaient, qui étaient du POUM, pour le cas des Espagnols, ou qui étaient des communistes arméniens, ou qui étaient, voilà. Donc, dans la résistance dans la résistance contre les nazis durant la guerre 39-45, vous avez en tout premier lieu des patriotes français de droite, assimilables même à l'extrême droite aujourd'hui, et des communistes étrangers, dont mon grand-père paternel, Miguel Gil Ribes, qui avait été officier durant la guerre du Rif au Maroc, qui a fait la guerre civile espagnole dans le camp républicain, qui a perdu la guerre civile espagnole et qui, une fois qu'il l'a perdue, a pu passer la frontière pour arriver en France. Il a été mis en camp de concentration à Gurs et à Saint-Cyprien, a réussi à s'enfuir ou à sortir, je ne sais plus, il faudra que je vérifie, s'est retrouvé à Figeac, a intégré un réseau de résistance à Figeac avec des résistants lotois et aveyronnais qui n'étaient pas tous des gens de gauche, qui étaient aussi des anciens de 14-18 ou des souverainistes, d'accord, et qui ensuite a été déporté à Mauthausen. Voilà. Donc si vous voulez, moi on ne peut pas me la faire la douille de oui, les communistes ont été résistants. Les communistes se sont mis à être résistants qu'à partir du moment où Hitler a attaqué la Russie. Donc bien après le début de la guerre de 39-45. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Donc si vous voulez, vous avez effectivement des gens extrêmes, qui soient d'extrême gauche, résistants, parce que quand on sauve des juifs et qu'on se tape contre les nazis, on est quoi si ce n'est un résistant d'extrême gauche en fait, hein. Je veux dire, bon, si on n'est ni antisémite ni nazi à cette époque-là, bon. Et de l'autre côté, vous avez extrême gauche. Quand je dis ça, c'est une provocation, ce ne sont pas des gens d'extrême, mais ce sont des résistants au nazisme. Et ensuite, vous avez donc effectivement des anciens nazis qui d'ailleurs seront expulsés très rapidement du Front National. Le Pen va lui-même expulser ses anciens collaborateurs parce qu'il n'est pas en phase avec leur idéologie. Il est anticommuniste comme eux, mais il ne valide pas les idées qu'ils ont et il les dégage. Et d'ailleurs, ces gens-là vont fonder des partis qui vont bider. Voilà. Donc les accusations de nazisme, d'antisémitisme extrême de Le Pen, elles tombent à l'eau parce que Le Pen lui-même a nettoyé son parti très rapidement, avant de faire des grands scores, bien avant de faire des grands scores. Donc si vous voulez, cette espèce d'argument qu'on vous met sous le nez en permanence, vous avez de quoi le contrer avec ce que je viens de vous le dire. Avec ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc ça, c'est très très important de le savoir. Maintenant qu'on a évacué ça, on va parler donc de ses engagements militaires. Alors déjà, il faut savoir que son père meurt, alors non pas tué par les Allemands, contrairement à ce que j'ai entendu dire récemment, mais parce que son chalutier, il faut savoir que la famille de Le Pen, ils sont d'ascendance bretonne, de la Trinité-sur-Mer, il me semble, et en fait, le chalutier de son père, le bateau, le chalutier, vous me pardonnerez si je dis une bêtise, les Bretons, je suis pas un homme de la mer, donc je confonds peut-être peut-être que ça n'a rien à voir. Alors, je sais pas si c'était un chalutier, un bateau, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait, il va percuter une mine sous-marine, et son bateau va exploser. Voilà. Et il me semble que cette mine, elle est plutôt américaine. Elle n'est pas forcément allemande, elle est plutôt américaine. Mais c'est possible qu'elle soit allemande. J'en sais rien du tout. Donc, vous me pardonnerez si j'ai dit une bêtise. En tout cas, je vous ai présenté les deux possibilités. Vous irez vérifier par vous-même. Mais ça importe peu. Parce qu'en fait, cet événement va déclencher chez Le Pen la volonté de défendre son pays contre les Allemands. Et il est prévenu par un officier ou un soldat allemand, je ne sais pas, que son père est mort. Et donc, il va tenter de rejoindre à 16 ans la résistance. Voilà. Contrairement à, par exemple, un autre homme politique français, Mitterrand, qui, lui, va aller travailler avec Pétain, à Vichy. Eh ben alors, la gauche. Vous êtes sortis faire la fête quand Mitterrand, il est mort dans les rues. Eh ben alors, la gauche. Qu'est-ce qu'il faisait à Vichy Mitterrand si ce n'est signer des listes pour envoyer les Juifs à l'abattoir? Eh ben alors, la gauche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite dissonance cognitive. Et qu'est-ce qu'il lui a fait à Thomas Sankara, Mitterrand? Qu'est-ce qu'il a fait avec la France-Afrique, Mitterrand? C'est pas le plus grand assassin de noirs de l'histoire, Mitterrand? Parce que lui, niveau saigner l'Afrique noire, là, mais il y allait plein pot. Mais lui, vous n'êtes pas allé faire la fête quand il est mort? Je comprends pas. Bref, revenons à Jean-Marie Le Pen. Donc, il tente de rentrer dans la résistance. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'on ne le laisse pas faire, en fait. Hein. On ne le laisse pas faire, on considère qu'il est trop jeune. Et il ne pourra pas aller défendre la France à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il cherche des conflits où il peut aller défendre la France parce qu'il n'a pas pu le faire pendant 39-45. Et il décide, en voyant toutes les horreurs qu'ont produites le communisme, d'aller défendre les intérêts français en Indochine. Alors, je le dis dans ce podcast pour que ce soit bien clair. Moi, personnellement, je suis pour les conquêtes parce que tous les peuples ont réalisé des conquêtes. Je suis contre l'esprit colonial. Voilà. C'est une nuance qu'il faut comprendre. Je suis pour que les peuples, quand ils peuvent le faire, conquièrent. Je suis quand même pour la paix, hein. Je pense que la paix doit être préservée. Mais la conquête fait partie de l'histoire et fait partie de l'homme. Donc je ne jette pas, on va dire, je ne suis pas anti-conquête, hein, non, au sein de l'histoire. Pour moi, il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait eu des conquêtes, que ce soit les Arabes en Espagne ou les Espagnols en Amérique du Sud. Les hommes, les grandes civilisations produisent des conquêtes. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est une donnée historique. Donc je ne suis pas contre l'esprit de conquête, je le comprends. Je comprends pourquoi il survient. En revanche, je suis contre l'esprit colonial. L'esprit colonial est un esprit paternaliste produit par la gauche de Jules Ferry. Ça aussi, il va falloir que vous l'appreniez, vous, les gens qui écoutez ce podcast et qui êtes de mon bord politique, pour vous le mettiez dans les naseaux des gauchistes. Vous n'avez pas à défendre la colonisation. Vous pouvez défendre la magnificence de la conquête militaire, parce que la conquête militaire, toute conquête militaire rend fier les peuples, que qu'ils soient Zoulou avec Chaka Zoulou qui a conquis tout le sud de l'Afrique, qu'ils soient arabes avec, Ibn al-Tariq, ou je sais plus comment il s'appelait, qui a conquis une grande partie de l'Espagne, que ce soit Saladin, que ce soit Richard Cœur de Lion, que ce soit Saint-Louis, nous sommes tous fiers de nos conquêtes. C'est pas parce que vous êtes blanc que vous devez avoir honte des conquêtes qu'ont fait vos peuples. Vos peuples ont fait de brillantes conquêtes, que vous soyez portugais, espagnol, anglais, allemand, français, italien, ce que vous voulez, vous avez dans votre histoire des conquérants. Et ça, c'est magnifique. Et il y a beaucoup de peuples qui sont très fiers d'avoir des conquérants dans leur histoire. Voilà. Les Berbères d'Afrique du Nord ont très largement conquis l'Espagne. Il y avait beaucoup plus de Berbères que d'Arabes dans la conquête de l'Espagne. Et ils en sont fiers. Et à juste titre. Moi, je suis espagnol, je leur dis, oui, vous pouvez être fiers de ça, c'est quelque chose. Hein. Les Marocains sont extrêmement fiers des guerriers rifains qui ont tenu tête à la France et à l'Espagne. Très, très bien. Ben, moi, je suis fier de mon grand-père qui a réalisé des conquêtes militaires parce qu'il n'était pas dans un esprit colonial, il était dans un esprit nationaliste. Le colonialisme, c'est autre chose. La guerre, c'est un truc de droite. Le colonialisme, c'est un truc de gauche. Le colonialisme, c'est venir voir les gens avec un esprit paternel et leur dire Vous avez des traditions de merde, on va vous apprendre à arrêter d'être des nègres ou arrêter d'être des bougnoules. C'est clairement, c'est ça. Hein. Je suis désolé d'utiliser ces mots-là, mais pour que vous compreniez la violence du processus colonial. Le colonisateur, le mot nègre, il l'utilise à toutes les sauces. Le colonial, oui, la race nègre, non, ça, c'est produit par un discours de gauche, un discours Troisième République, un discours à la Jules Ferry. Les grands colonialistes sont des gens de gauche. Ça va être Victor Hugo, qui est un grand partisan de la colonisation, et ça va être l'idéologie de Jules Ferry. Voilà, c'est de fabriquer avec cet amas de population qu'on prend de manière un peu paternaliste des Gaulois. Donc c'est l'absurdité de professeurs, ce qu'on appelait les hussards de la République, de professeurs de la Troisième République, qui vont dans le bassin du Congo apprendre aux petits noirs à leur dire mes ancêtres les Gaulois, et qui vont toucher des gamines au passage. Parce que c'est ça, hein. L'esprit républicain, c'est ça. Hein. Voilà, c'est Dieu n'existe pas. Donc, si je peux tripoter des Congolaises de 6 ans et faire dire à des Noirs que leurs ancêtres, c'est les Gaulois, je m'en prive pas. Ça, les amis, ça, c'est la gauche. Ça, c'est la gauche. La colonisation, l'esprit colonial, d'accord. Donc, tout ce qui s'est passé, grosso modo, entre 1830 et le 19e siècle, et le début du 20e siècle, c'est un esprit de gauche qu'il faut différencier de la conquête. La conquête militaire, on appelle les bœufs nationalistes, ils font le taf, ils vont se la donner comme cela sont toujours donnés les peuples entre eux, d'accord ? Et ensuite, ils rentrent à la maison, ils restent pas pour prospérer. Les conquistadors qui ont conquis le Mexique, la majorité sont rentrés en Espagne avec du pognon, ou pas d'ailleurs, ou avec la fièvre, ou la syphilis, d'accord ? Ceux qui restent, c'est ce qu'on appelle les créoles. Ceux qui restent dans les colonies, ce sont les gens qui sont les descendants de l'administration coloniale, voilà. Donc c'est autre chose. Il y a le colonisateur, d'accord ? Il y a le guerrier, il y a le guerrier, il y a le soldat colonial, et après il y a le colon. Le colon, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et encore dans le colon, vous avez des gens qui étaient des forçats, qui n'avaient absolument. En Algérie, par exemple, vous aviez des colons qui étaient des pauvres airs, qui venaient chercher du travail et qui étaient dans le même état de dénouement que les autochtones. Bref. Je pars dans tous les sens. Donc, si vous voulez, moi, je suis un anti-colonial. Mais je suis un admirateur des conquérants, parce que ça fait partie de l'histoire humaine, et tous les peuples doivent être fiers de la conquête qu'on fait leur... Il n'y a pas de conquête propre et de conquête sale. Voilà. Les Arabes n'ont pas fait des conquêtes plus propres que les Espagnols en Amérique du Sud. Les Arabes n'ont pas fait de conquêtes plus propres à Poitiers que les Français en Algérie. D'accord ? Faut arrêter avec ça. Ça, c'est maintenant, faut arrêter. Il y a la bonne et la mauvaise colonisation. J'en ai plein le cul d'entendre ça. D'accord ? J'en ai plein le cul d'entendre ça, parce que vous avez des énormes maghrébins qui vous sortent toute la journée des « Ah là là, en Andalous, c'était merveilleux, mais la conquête de l'Algérie, c'est horrible. » Ah d'accord. Donc en fait, quand c'est toi qui as le fouet, c'est toi qui mets l'impôt, c'est toi qui mets la babouche sur le crâne des gens pour qu'ils se convertissent et qu'ils récitent la charada, ça c'est pur. Par contre, quand les Français ils viennent te vacciner, t'apprendre l'alphabet, arrêter de te torcher avec de l'eau et du sable, tu vois, là c'est des fils de pute. Non, ça marche pas, fils de pute. Ça marche pas. Soit arrête d'avoir de la mauvaise foi, d'enculer du désert, et rends-toi compte qu'en fait, t'as un putain de jugement à deux vitesses. Il n'y a pas de conquête propre et de conquête sale. Il n'y a que des conquêtes, avec leurs codes et leurs règles, qui sont l'affrontement de deux peuples, avec les armes qui sont disponibles. Voilà, c'est tout. Après, en revanche, le colonialisme est une horreur. Le colonialisme, c'est le paternalisme, c'est le roi Léopold qui fait couper des mains de la moitié de la population dans le bassin du Congo. C'est le colonialisme, c'est fabriquer des sous-citoyens. Donc en Algérie, vous aviez des pieds noirs qui étaient donc des citoyens, et vous aviez des bédouins ou des chaouis ou des berbères qui étaient des sous-citoyens. Ça ne peut pas fonctionner. Tout apartheid, tout système inégalitaire est satanique. Toute considération que les âmes ont des hiérarchies est satanique. Il n'y a pas de hiérarchie parmi les âmes, il n'y a pas de hiérarchie parmi les hommes. Les hommes sont adaptés au milieu dans lequel ils ont vécu. Voilà, les Congolais sont pas inférieurs aux Algériens, les Algériens sont pas inférieurs aux Blancs, c'est juste qu'ils ont été fabriqués pour fonctionner dans leur biotope. Voilà. Et un Inuit n'est pas inférieur à un Blanc. Un Inuit au cercle polaire, il peut pas fabriquer les temples grecs qu'on peut faire quand on a 4 saisons, quand on est dans des carrefours civilisationnels, quand on a accès à de la matière première. Il n'y a pas de bois au cercle arctique, il n'y en a pas dans le désert. Donc si vous voulez, on ne peut pas avoir les mêmes résultats à l'arrivée, c'est normal, et c'est plus des questions géographiques que des questions purement raciales. Voilà. On peut pas aller voir les Inuits et leur dire « Vous êtes des sous-hommes, ils vivent dans la neige, qu'est-ce que tu veux qu'ils te sortent un Empire State Building ?» Franchement, C'est pareil pour les Africains. Ils vivaient sur un territoire qui était extrêmement hostile. Je rappelle que le prédateur le plus gros que tu pouvais croiser en Europe pendant des siècles, alors il y avait le lion européen qui a disparu entre l'Antiquité et le Moyen Âge, et vous aviez l'ours, d'accord? Donc c'était des animaux qui au maximum faisaient 250-300 kilos. Encore aujourd'hui en Afrique, vous avez des prédateurs qui font une tonne. L'animal qui tue le plus en Afrique, ce n'est ni le crocodile, ni le lion, ni le guépard, c'est le putain d'hippopotame. Il y a le moustique et l'hippopotame juste après. D'accord? Donc, on ne peut pas attendre d'une population qui est dans un milieu où vous avez des tornades, des pluies abondantes, où la moindre construction peut être défoncé par l'humidité, par je sais pas, ou par la sécheresse, ou si un jour il n'y a plus d'eau, ben c'est fini. Par exemple, dans le désert, vous avez la cité de Petra. Bon, à un moment, il n'y a plus de flotte. Hein. Bon, les mecs, ils vont pas zoner en se disant, on va boire de l'eau en poudre. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut sortir de ces trucs-là de hiérarchie. Les hommes sont fabriqués pour les milieux dans lesquels ils sont apparus. Donc, un Congolais est supérieur à n'importe qui dans sa jungle. Un Inuit est supérieur que n'importe qui dans le froid. Un Blanc est supérieur que n'importe qui en Europe. Parce que c'est son milieu. Voilà. Donc, si vous voulez, et d'ailleurs, ça, il faut que vous le compreniez aussi, là, les gens qui pensent que l'Européen va disparaître sur son propre sol, ouvrez un livre d'histoire, hein. L'Européen, c'est quelque chose, hein. Ça va pas se passer comme vous pensez, hein. Ça va pas se passer comme vous pensez, je vous l'annonce, hein, d'ores et déjà. Si vous pensez que vous allez pouvoir le préempter par la naissance, l'Europe, hein, vous allez tomber sur un os. Hein, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Les Européens, attention, hein, c'est très rugueux ces choses-là. Hein, c'est très rugueux. Quand ça se réveille, ça peut être très rugueux. Hein, bon. Donc, si vous voulez, voilà. Le colonialisme, c'est de la merde, parce que le colonialisme, c'est prendre la décision très gauchiste de venir faire le bien auprès de gens qu'on ne connaît pas et qu'on sous-estime à leur place. Donc on vient de dire aux Arabes et aux Noirs et aux Asiatiques, qu'est-ce qui est mieux pour eux? Voilà. Et ça, ça pour moi, c'est un énorme péché d'orgueil, donc je ne suis pas colonialiste. Et Le Pen n'était pas colonialiste. Le Pen était un guerrier qui voulait défendre les intérêts de la France et défendre, et comment dire, défendre le prestige national alors que le communisme était en train de triompher partout et qu'on voulait détruire les nations. Voilà. Donc il faut aussi mettre un peu de contexte. Donc le mec part. Il part en Indochine, il fait la guerre d'Indoche, hein. Ensuite il s'engage en Algérie, il sera accusé d'avoir fait de la torture en Algérie, alors ça c'est pareil, on va un petit peu rentrer dans ce sujet qui est le sujet que là tout le monde remet sur la table, la torture en Algérie, Le Pen aurait torturé des familles entières en tuant je sais pas combien de gens devant leurs enfants, bon, alors déjà une chose, on va prendre les faits. Le Pen a déclaré dans un journal, je ne sais plus quand, dans les années 60 ou 70, qu'effectivement, il avait eu à torturer. Et ensuite, il est revenu dessus toute sa vie, en disant qu'il l'avait dit par provocation, que c'était pas vrai, voilà. Bon, je crois que c'est ça. Et ensuite, vous avez, en 2002, des affaires qui ressortent, où tout d'un coup, vous avez des personnes qui disent « Ma famille a été torturée par Le Pen », et là, on découvre des horreurs. Donc, j'aurais eu, je sais pas combien, de dizaines de gens qui auraient été torturés par Jean-Marie Le Pen, de manière arbitraire et gratuite, sans être affilié au FLN. Bon, alors, plusieurs choses, pour commencer. La torture est une part intégrante de la guerre d'Algérie, que ce soit du côté français, mais que ce soit aussi du côté du FLN, qui d'ailleurs était un parti minoritaire au début de la guerre d'Algérie, et des autres factions de la guerre d'Algérie. La torture en Algérie a été pratiquée non seulement par les Français, mais aussi par les Algériens. Et les Algériens sur d'autres Algériens. Beaucoup d'Algériens ont été torturés par des Algériens. D'accord? Moi, je vais vous dire les choses. Je n'ai rien contre les indépendantistes algériens. Je suis désolé pour les pieds noirs qui m'écoutent, je vais vous choquer. Mais quand on est un sous-citoyen sur sa terre ancestrale, c'est normal qu'on se mette à lutter. Moi, je ne peux pas d'un côté en France dire on va dégager tous ces enculés qui veulent détruire notre pays et fustiger les indépendantistes des autres pays qui ont voulu dégager le système colonial injuste. Moi, je suis désolé. Voilà. En revanche, ce que je dis, c'est que les crimes qui ont été perpétrés contre les pieds noirs sont des abominations et n'auraient pas dû avoir lieu. C'est-à-dire que les pieds noirs n'avaient pas la responsabilité de ce système, même si certains en ont tiré parti, ils n'avaient pas la responsabilité individuelle de ce système de sous-citoyenneté. Moi, je suis catholique, il n'y a pas de sous-citoyen. Il n'y a que des sujets de Dieu, si vous voulez. Il n'y a que des enfants de Dieu. Donc, on ne peut pas les hiérarchiser en droit. On ne peut pas les hiérarchiser en droit. Surtout s'ils sont chez eux. Voilà. Donc, si vous voulez, à un moment, les Algériens natifs d'Algérie, ils se sont battus contre un système colonial qui était vecteur d'inégalité. C'est une réalité. Même si la colonisation en Algérie a modernisé le pays, a permis aux Algériens d'avoir une plus grande natalité, puisque quand les Français arrivent en Algérie, il y a 7 millions d'Algériens. Quand ils en repartent, il y en a 22 millions. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y avait moins de fausses couches à cause des hôpitaux qu'ont fabriqué les Français. On a complètement modernisé ce pays. Vous savez qu'il y a des colonisations qui ont été beaucoup plus sales. La colonisation française au Cameroun, c'est du gazage, hein. La colonisation française en Algérie, c'est des infrastructures et des infrastructures et de l'argent investi. Voilà. Ça n'efface pas l'injustice de la sous-citoyenneté. Voilà. Donc, en fait, il faut être réglo sur la question algérienne. Les indépendantistes algériens qui se sont battus contre le système colonial français avaient raison de le faire. La France a modernisé l'Algérie, en a fait un département français avec tous les standards que doit avoir un département français, sauf qu'elle crée des sous-citoyens. Voilà. Et les pieds noirs, à leur tour, ont eu raison de se défendre quand le FLN a été les premiers à les attaquer. Parce que je rappelle que la guerre d'Algérie démarre parce que vous avez des massacres de civils. Voilà. Donc il faut être juste dans le traitement de l'histoire. Il faut être juste. Les pieds noirs ont été sauvagement attaqués par les autochtones alors qu'ils n'avaient pas la responsabilité de ce système colonial. Voilà. Et de l'autre côté, le système colonial a fabriqué des inégalités qui ne pouvaient pousser les Algériens autochtones qu'à se rebeller. C'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Je ne peux pas d'un côté me féliciter que l'Espagne ait botté le cul des Arabes et les ait renvoyés en babouchi, et de l'autre côté dire aux Arabes « Ah non, non, mais vous, vous devez accepter le système colonial. » On ne peut pas faire comme ça. Par contre, la honte, c'est de venir vivre dans un pays contre lequel tu t'es battu. Voilà, ça c'est la honte par contre. Des Algériens qui continuent à plébisciter le FLN en disant « Je suis fier de ce qu'a fait le FLN. » Et venir vivre en France, où je me réclame des idéologies du FLN anti-françaises, et viens vivre en France, tu es un apatride, tu es un mendiant civilisationnel, tu es une merde, d'accord ? Tu as un double visage, tu es un traître civilisationnel, tu es un traître à l'Algérie, et tu es un traître à la France. Parce que si tu supportes l'Algérie, tu vas en Algérie aider à son développement, faire ta hijra et arrêter ton apostasie de fait, ton apostasie douce, d'accord ? Si c'est ça, si t'es un musulman algérien, tu vas participer à l'essor de ton pays. Et si tu es français, tu lâches tes oripeaux d'Algérien. Tu deviens un français à part entière. Tu as le droit d'avoir de l'affection pour ta culture d'origine, comme moi j'ai de l'affection pour ma culture d'origine. Mais tu ne prends pas des idéaux anti-français, je dis pas anti-républicains, anti-français, pour ton dans ton esprit et dans tes actes. Tu ne peux pas être anti-français et français. Voilà. Et si jamais tu as abandonné ces oripeaux et que tu te sens français et que tu as délaissé la religion qui t'ordonne de faire passer certains préceptes au-dessus des lois du pays dans lequel tu as choisi de vivre, tu es une merde. Tu es une merde et tu veux le beurre et l'argent du beurre. Et tu es un mendiant civilisationnel. Tu es un apatride. Tu es un sale apatride errant. Voilà ce que tu es. Si en revanche, tu te sens français, tu as envie que ce pays s'en sorte, bienvenue mon frère, tu fais partie de la communauté française et je t'aime à même titre que n'importe quel autre français. Voilà. Si tu es algérien d'origine, que tu aimes la France, que tu participes à la France et que les lois de ta religion ne vont pas au-dessus des intérêts français, bienvenue. Bienvenue. Voilà. Bienvenue, tu es mon frère. Tu as beau t'appeler Abdel, si tu as délaissé la hijra parce que tu as apostasié pour de vrai et que tu es clair avec ça et que tu as envie d'être français, bienvenue mon frère. Bienvenue mon frère. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je peux étendre ça à tout le monde. Hein. Les Noirs, c'est pareil. Hein. Si tu es attaché à ta culture d'origine, le Cameroun, le Congo, le Sénégal, ce que tu veux, que tu as de la tendresse pour ça, il n'y a aucun problème. Tu ne dois pas avoir un discours qui est antinational. Tu peux avoir un discours anti-républicain, critiquer le régime. On a tous le droit de critiquer le régime républicain en France, chose que je fais tous les jours. On n'a pas le droit de saboter l'essence de notre nation. Son système politique, on peut le saboter. L'essence de notre nation, on ne peut pas la saboter. On ne peut pas se réjouir que Notre-Dame brûle, comme l'ont fait les hordes de mahométans français sur Twitter quand Notre-Dame brûlait. Voilà. Donc moi, je vous le dis, je ne suis pas un racialiste. Si tu aimes la France, que tu es clair vis-à-vis de ton identité, que pour toi, tu as envie d'amener du meilleur à ce pays et qu'ensemble, on fabrique un pays plus agréable pour nous tous et que tu n'as pas de dépendance tribaliste qui te rattache à un autre groupe que celui de la communauté française, bienvenue mon frère. Et construisons ensemble ce pays. Uniculturel, mais multiethnique. Multiethnique, pas seulement parce que toi, le noir, ou toi, l'arabe, vous êtes ici. Multiethnique, parce qu'il y a du breton, de l'occitan et du corse. et du catalan et tout ce que vous voulez d'autre. D'accord ? Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que c'est la fiesta et que toute l'Algérie et toute l'Afrique doit débarquer en France. Hein. Voilà. Faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, si on pouvait fermer le robinet migratoire et ceux qui sont là, trier la merde, renvoyer le substrat de merde qu'il y a dans chaque communauté et garder les gens de bonne volonté, d'accord ? Les Zidane, les Aldostérone, les Raptors, qui est mon frère d'armes et qui est tout à fait clair par rapport à sa... À son identité, d'accord. Je vais prendre son exemple. Le grand-père du Raptor a lutté pour l'indépendance d'Algérie. Il n'est pas venu vivre en France après. Il est resté en Algérie. Ses parents sont partis d'Algérie pour venir trouver de meilleurs débouchés en France. Ce sont des gens qui étaient ultra instruits. Les parents du Raptor, parce que quand je parle de la question algérienne, je suis obligé de clarifier ça parce que je reçois des messages qui me disent oui, mais le Raptor, les parents du Raptor, ce sont des gens surdiplômés. Ce sont des gens qui font de la recherche et qui sont venus améliorer ce pays. Et ils ont fait des enfants qui sont au conservatoire, qui ont fait Saint-Cyr, qui ont fabriqué des entreprises françaises, qui font travailler des Français. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je suis pas plus légitime, moi, le descendant d'Espagnol. Moi, je suis pas français non plus de sang. Hein. Et pourtant, j'aime ce pays et j'estime avoir de la légitimité à y être. Bon, j'y suis plus, mais j'estime avoir de la légitimité à le défendre parce qu'il m'a donné et je veux lui rendre. Et je veux être très très clair là-dessus par rapport au Raptor. Le Raptor, il est dans la même dynamique que ça. Ça ne veut pas dire qu'il renie l'identité de ses parents, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, il a fait un choix. Il vit en France, son énergie, sa volonté de synergie, elle va pour la France. Elle va pour la France, il est au clair avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc si vous voulez, si vous êtes algérien et que vous m'écoutez, vous devez être très très peu, hein, je vous le dis de manière très claire. Si vous avez fait le point sur votre identité, que vous vous sentez français, pas que vous vous sentez français, sauce remixée, je suis un français, tahadjazaïd. Non. Soit tu es français et tu veux lutter pour la France, et dans ce cas-là, bienvenue. Soit tu as une attache qui dépasse ton attache à la France envers l'Algérie et la religion des Algériens qui est l'islam, et dans ce cas-là, raus. Voilà, raus. Il faut que ce soit très très clair. Si en revanche tu es un maghrébin qui a une entreprise française ou qui travaille, qui n'outrepasse pas les lois françaises, qui vit à la française, mais bienvenue, c'est pas moi qui n'ai aucun sang français qui vais te dire dehors. Moi je suis l'exemple même d'être pas français et d'aimer ce pays au point de lui consacrer ma vie, mon combat et ma carrière. Parce que je crois au rêve français, je crois au projet français. Et j'ai envie que ce projet français, il y ait encore plus de gens qui y adhèrent. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne veux pas fermer la porte à des gens qui ont envie d'alimenter ce projet français. Mais on ne peut pas l'alimenter en remixant le projet français. On ne peut pas alimenter le projet français en se disant « Ma France à moi, c'est le multiculturel. » Non, il n'y a pas de ta France à toi. Il n'y a qu'une seule France, c'est celle de Clovis, fils de pute. Hein. Et c'est celle-là qu'on doit défendre. Donc, tu commences pas à nous faire une farine là, qui avait dit « Oui, ma France à moi, c'est les musulmans, les capverdiens. » Non. La France, c'est les Français. Quelle que soit leur ethnie, c'est les Français. Voilà. C'est les Français qui aiment la France et qui ont envie de lutter pour elle. Et ça, c'est pas discutable, fils de pute. C'est pas toi qui décides, là, en 2024, en faisant un discours, de dire « Oui, ma France, c'est... » Non, mais il n'y a pas de ta France. La France, elle a été consacrée au baptême de Clovis par l'Église catholique et le roi des Francs, fils de pute. Donc ça, tu vas pas commencer à mettre un coup de marqueur dessus pour le rayer et dire « Non, attendez, ma France, c'est pas ça. Ma France, c'est le street food avec supplément de fromage dans mon âne, fils de pute. » D'accord ? C'est pas un pays qui a 40 ans d'existence, la France. C'est un pays qui en a 1500. Donc en fait, ferme ta mère, rentre dans le moulin et ta gueule maintenant. Et on fait un pays fonctionnel. Voilà. Et si chez toi, t'as envie de parler lingala, arabe ou wolof, c'est ton problème. Moi, chez moi, je parle espagnol. C'est mon problème. Quand je suis en France, je suis un putain de français et je suis prêt à mourir pour ce pays. Clair ou pas clair ? Clair. Bref. Donc, Jean-Marie Le Pen, c'était un français nationaliste. Il allait se battre pour les idées de la France. Il a fait une guerre. Les guerres, ça rend pas... Les guerres, ça rend pas candide. Hein. Les guerres, ça te donne pas envie d'être un mec de bonne humeur, tu vois. Donc effectivement, Le Pen avait une forme de rugosité qui peut se comprendre quand t'as connu Dien Bien Phu, quand t'as connu les égorgements, quand t'arrives dans des fermes de pieds noirs qui ramassent des oranges et qui sont pauvres et qui ont été égorgés par le FLN de fils de pute. Eux et tous les Algériens qui travaillaient sur leurs plantations, parce qu'il y avait ça aussi, hein. Ça faut le comprendre. Vous comprenez le truc ? Voilà. Donc si vous voulez, à un moment, il faut aussi remettre du contexte. Le Pen, il a fait la guerre, c'est un ancien combattant. Et on doit du respect aux anciens combattants. Ok ? Et dans une guerre, on se salit toujours les mains. On se salit toujours les mains. Parce que la guerre, si tu veux la faire propre, il y aura toujours un fils de pute en face pour te la salir. Et à un moment, il y a un mec qui va te dire... Là, j'ai placé une bombe dans un café. Il y a 25 personnes innocentes qui vont crever. 25 personnes innocentes qui vont crever. Le mec, tu l'as en face de toi. Il t'a dit, j'ai mis une bombe dans un café qui va péter. Tu sais que c'est lui. S'il te dit où est la bombe, tu peux évacuer le café et sauver 25 vies. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce qu'il a fait, le FLNC? Quand il y avait un Algérien qui avait des informations, il est torturé. Qu'est-ce qu'il faisait le FLN quand ils attrapaient un... Le FLNC, excusez-moi, pardon, pas le FLNC. Le FLNA, excusez-moi, le FLNA. J'ai dit FLNC depuis le début, je vous prie de m'excuser. Le FLNA, qu'est-ce qu'il a fait le FLNA quand il chopait des Français qui avaient des infos, des soldats? Il les torturait. C'était généralisé. Bonjour, bienvenue dans la guerre. Tu sais, le réveil sonne, les pacifistes se réveillent. Oh mon Dieu, la guerre, il y a des gens qui meurent. Ben évidemment qu'on leur brûle le bout des pieds. Et qu'on leur enfonce des bambous dans le cul, comme faisaient les Vietnamiens avec les soldats américains. Mais évidemment que la guerre, c'est ça, fils de pute. La guerre, c'est pas une utopie de gauche de merde. La guerre, c'est un truc sérieux. Il y a un moment où tu prends des poignards et tu les enfonces à la plante des pieds de mecs pour qu'ils parlent. Parce qu'il y a 25 personnes qui vont péter, des innocents et des gosses. Et en face de toi, t'as une merde qui s'en bat les couilles de ça, il a l'adresse de la bombe. Tu lui ouvres pas le bide? Tu lui crèves pas la gueule, tu lui électrocutes pas les couilles. Si c'est ta famille qu'il y a dans les 25 personnes. Moi, là, il y a un mec qui a posé une bombe, d'accord, dans un café où il est susceptible d'y avoir ma famille. Et il me dit, attention la torture, hein, attention, un jour il y aura 25% d'Algériens dans ton pays, donc me torture pas parce que, oh, ils vont mal le prendre. Mais nique ta mère! Tu t'en prends à des innocents, tu fais péter des cafés, mais bien sûr qu'on va t'ouvrir le bide. Raclure! Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est quoi la guerre? Vous croyez qu'ils font quoi en Afghanistan quand ils attrapaient des Russes? Les Afghans, là, vos copains de la Houma, là. Vous voulez qu'on regarde la torture, là, du point de vue musulman? Vous voulez qu'on... Je vous parle, là, des fillettes kidnappées au Cameroun, qui sont prostituées et qui finissent avec des infections du vagin de tellement qu'elles ont été violées et qui meurent prématurément à cause de nécrose vaginale? Tu vas en parler de ça, Crazy Sally, la Camerounaise, qui nous parle de tous les conflits du monde, y compris de la Palestine, sauf des fillettes du Cameroun, qui se font attraper, qui se font violer jusqu'à plus soif par des musulmans nigérians. Tu tortures pas quand t'entends des trucs pareils? Mets-moi un de nigérian qui viole des gamines camerounaises chrétiennes. Tu vas voir ce que je lui fais. Bande de merde, va. Bande de merde pacifiste. Vous savez ce que c'est la guerre, bande de merde? Mon grand-père, le héros, là, de gauche espagnol, il a brûlé des curés! Il a coupé des doigts, c'est un criminel de guerre. Et il se faisait sucer la bite par toute la gauche toulousaine. Bon grand-père. Ah, monsieur Carlos Jiménez, vous êtes un héros. Un mec qui a brûlé des curés innocents. C'est un criminel de guerre, mon grand-père. Et c'est un mec de gauche. Mais vous vous réveillez là de... Oh, Le Pen a torturé en Algérie. Qui n'a pas torturé à la guerre? Les Français, les poilus français, quand ils attrapaient des Allemands qui avaient des baïonnettes à cran, ils les torturaient. Parce que c'était des blessures tellement infâmes. Qu'il torturait les Allemands qui trouvaient que ces baïonnettes-là. Du coup, les Allemands raclaient leurs baïonnettes pour enlever les dents qu'il y avait dessus pour pas être torturés par les Français. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Les Espagnols ont torturé des Marocains dans le Rif. Les Rifains ont torturé des Espagnols. Mon grand-père a été prisonnier chez les Rifains. Il y avait des mecs qui subissaient des tortures abominables. C'est la guerre. C'est la guerre. Les Algériens ne font pas des guerres propres et les Français des guerres sales. Tout le monde se salit à la guerre. Tout le monde se salit. Bande de merde, va. Avec toujours cette espèce d'indignation sélective. Vous me dégoûtez, putain. Et t'as toute la gauche maghrébine de merde, là. Qui vient nous dire, oui, la torture, mais vous voulez qu'on regarde, là? Les Moudjahidines? Vous voulez qu'on regarde dans le monde, là, les musulmans, ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos copains de la Houma Seleka, là, dans le Centrafrique? Menteur que vous êtes. Bédouin menteur, putain. Insupportable. Insupportable. Bédouin à mémoire sélective. Putain, quand. Vendeur de chameaux, chamelier, va. Chamelier à babouche. Espèce de merde sans lacet, va. Putain, insupportable, insupportable, insupportable. Le Pen, il a torturé. Putain, t'as l'histoire de l'humanité avec toutes les saloperies possibles, imaginables. Ils vont chercher le truc qui les arrange pour leur discours. Et t'as des œillères sur le reste, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait, là, laisser les cas au Centrafrique, à émasculer les hommes et tout, là? Et les 14 siècles de traite négrière au Sénégal, où ça castrait allègrement des burnes noires, là, pour pas qu'ils défoncent vos beurrettes à Bagdad, là. Bande de merde. Et après, ça va faire des grands discours sur l'horreur des Occidentaux pendant la guerre d'Algérie. Bande de merde, là. Je vous conchis, putain. Espèce de mauvaise foi, là, de communauté de mauvaise foi, bah, putain, vous me dégoûtez, putain. Bref, donc Le Pen n'a pas fait pire que les autres. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, en 2002, il s'est retrouvé au second tour. Et là, comme par hasard, oh mais quel hasard, en 2002, quel hasard, tout d'un coup, il y a des mecs qui sortent de nulle part et qui viennent parler de faits qui sont invérifiables. Et qui vont dans le sens de Le Pen aurait torturé. Et c'est invérifiable. Le Pen est rentré dans mon appartement, il a enculé mon chat, il a ouvert le ventre de ma grand-mère, il a mis un autoradio dedans, il a défenestré un bébé, puis après il est allé le prendre en bas et puis il l'a mangé. Il a fait bouillir un bébé, puis après il l'a mangé. Voilà, on a eu ça. Alors quels sont les journaux qui ont relayé ça? Libération, Le Monde, les mêmes journaux qui ont expliqué qu'on avait séquestré un maire alors que c'est faux. Que moi j'avais séquestré un maire, je sais pas quoi. Les mêmes qui ont dit que l'affaire de Montjoie c'était l'extrême droite contre un pauvre petit maire. Voilà, c'est les mêmes journaux en fait. Voilà, c'est les mêmes journaux. T'es, je vais m'adresser aux Arabes de mauvaise foi. C'est les mêmes journaux qui ont accusé Le Pen de d'avoir été un tortionnaire. C'est les journaux qui nient le génocide à Gaza. Voilà les Arabes. Voilà les Arabes. Allez, tenez, voilà votre nourriture. Voilà votre propre pain sans levain. Putain. Les mêmes journaux qui ont accusé Le Pen d'avoir fait de la torture en Algérie, c'est les journaux qui nient, qui aiment les juifs. Voilà, je vais vous traduire en langage d'arabe. Ils aiment les juifs. Les journaux qui ont dit ça, ils aiment les juifs. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, les arabes? Vous êtes des énormes antisémites. Ça devrait pas passer, normalement. Mais là, ça y est. Ces journaux ont du crédit. Quand ces journaux expliquent, qu'à Gaza, il se passe rien, vous êtes pas d'accord. Quand ces mêmes journaux vous dites c'est du mensonge. Quand ces mêmes journaux accusent Le Pen d'avoir torturé, oui, ils ont raison. Bravo. Voilà. Chamelier. Ça, c'est des trucs de chamelier. Je suis obligé de vous le mettre, le chamelier. Je suis obligé de vous jeter des dates. Là, je vous jette des dates. Elles n'existent pas matériellement, mais je sais que vous les recevez sur le visage. Si vous écoutez ce podcast et que vous validez Le Monde quand il dit que Le Pen a torturé, mais vous validez pas Le Monde quand il dit que il y a rien à Gaza, je vous jette des dates au visage. Et vous les recevez, hein. Vous les recevez métaphysiquement, ces dates, elles rebondissent contre vos têtes. D'accord? Voilà. Ça c'est fait. La poignée de dates a été jetée. C'est réglé. Donc, si vous voulez, le truc a été monté parce qu'il arrivait au second tour. Donc là, ils ont fait des enquêtes. Et là, ils nous ont fait El Famoso. On a une preuve. Et alors là, c'est génial. Là, on est à Disneyland. Oui, regardez, j'ai trouvé un poignard des jeunesses hitlériennes avec écrit Jean-Marie Le Pen dessus. Non mais là, on est dans quoi, là, en fait? On est dans un cartoon. C'est sa cartoon. Va y avoir le mec, là, qui le présentait, qui ressemblait à Monk, là, avec les cheveux crépus. Va y avoir le chat, va y avoir Titi et Gros Minet. C'est pas possible. Sur le canapé, où il y a l'Algérien qui nous explique qu'il a trouvé un poignard avec écrit Jean-Marie Le Pen dessus, il y a Titi et Gros Minet qui vont venir. Parce que c'est un cartoon. Il a oublié le poignard dans mon appartement. Oui, bien sûr. Des militaires qui oublient leurs armes. Le premier truc qu'on t'apprend à l'armée, d'accord, vous avez tous vu Full Metal Jacket, c'est que tu dors avec ton fusil, c'est ta femme ton fusil. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un para, un militaire d'élite, il va oublier son poignard des jeunesses hitlériennes? Donc les jeunesses qui ont tué, contre qui il voulait, les jeunesses du parti, contre qui il voulait se battre quand il a voulu rejoindre la résistance étant jeune, hein, je le rappelle. Donc un poignard des jeunesses hitlériennes avec écrit dessus Jean-Marie Le Pen. Oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors écoutez, fortuitement, maintenant que Jean-Marie Le Pen est au... Alors, il n'était pas du tout aux portes du pouvoir, mais il est au second tour. Attendez. Vous ne savez pas la nouvelle qui est tombée, chers amis? Nous avons retrouvé un poignard des jeunesses hitlériennes dans ses appartements. Donc, c'est apparemment une famille d'Algériens qui ont retrouvé le poignard, comme ça, ils rangeaient leurs affaires. Ils étaient en train de ranger les cajots de salade, et tout d'un coup, paf! Le poignard de Jean-Marie Le Pen qu'il avait oublié. Mohamed couscous, quand il pète ça fait de la mousse. Non, je suis obligé de faire une petite chanson raciste parce que là, c'est du mensonge. Là, il y a un côté pas cher. Et je te fais un mytho pas cher. Il est pas très bien fait, mais je te le fais pas cher. Ce mensonge a le même niveau de nutritionnel que le El Morjen. Je suis obligé de vous le dire. Ce mytho algérien sur le poignard qu'aurait oublié Le Pen dans un appartement a le même taux de sucre que la pâte à tartiner El Morjen. Je vous le dis. Le coût de... Ouais, en fait, c'est lui parce que... Glek, il a laissé un poignard. Wallah. Wallah, je te jure. Brassa Mahakarbi, je te jure qu'il a laissé un poignard dans l'appartement. Wallah. Wallah. Hakurantah, la mec, je te jure. Wallah. Alors, je sais pas ce qu'on a fait. On n'a pas rangé l'appart pendant 60 ans. Mais tout d'un coup, le mec arrive au second tour. Et là, on trouve un poignard. Pas un poignard classique. Pas un poignard de chasse. Non. Non, 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 non. Non. Un poignard. Les jeunesses hitlériennes. Les jeunesses. Les pires jeunesses qu'il y ait jamais eu dans l'histoire. Les jeunesses chasseurs de juifs. La famille, vous dis-je, la famille. Mais bien sûr, tu veux décrédibiliser quelqu'un, mais c'est le point Goldwyn. Tu peux pas dire que t'as trouvé un poignard des jeunesses communistes. Ça marcherait pas. Pourtant, ils ont tué plus de gens que les nazis. Tu peux pas dire, j'ai trouvé un poignard de la République espagnole. J'ai trouvé le poignard du grand-père de Papacito avec lequel il torturait les curés. Non, ça ne marche pas. Non. Tu as trouvé le poignard des jeunesses hitlériennes, Erika. Nan, 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 chouin, nan, nan, Erika. Nan, nan, nan. Nan, nan, espèce de merde. Menteur. 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 Le mec arrive au second coup et tout d'un coup, Erika. Tout d'un coup, Erika. Mais allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer, putain de merde. Qu'est-ce que c'est que cette manipulation grossière? On est dans le comte de Monte Cristo, là. On prend Le Pen, on lui fout un nez en plastique, on le fait passer pour un autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le mec a essayé de s'engager dans la résistance pour aller buter des nazis et on lui fait une Erika. On lui fait une Erika. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est insupportable, je ne supporte plus ces trucs et tout le monde fait semblant que c'est pas chelou. Et les Arabes sont les premiers à te dire le 11 septembre c'est la CIA. Par contre, le poignard de Le Pen qu'on retrouve dans un appart en Algérie au moment du second tour en France, ça, c'est pas la CIA, quoi. Ça, c'est le hasard. Al baraka. Oula, c'est la baraka, je te jure. Oula, c'est la baraka. Oula. Oula, je te jure, c'est la baraka. Oula, oula. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais arrêtez de nous prendre pour des cons, putain. Je veux bien être un goy et un couffard de service. Mais me faites pas croire qu'il pleut quand vous me pissez sur la gueule, putain de merde. Parce que vous allez finir avec du Erika à force de faire des trucs comme ça, de prendre les goyes pour des merdes. Ça va finir par du... Les Allemands, ils recommencent à lâcher des chiens là sur les manifestations de pro-palestiniens en Allemagne. L'AFD, là, ils font des affiches avec des mecs qui ont le bras levé. Vous allez l'avoir, le vrai nazisme, à force de traiter tout le monde de nazi, quand, putain. Mais c'est infernal. Je vais vous mettre du Erika, là. Je vais mettre Erika. Voilà, je vais mettre la chanson Erika. Et vous allez penser à la personne des services secrets de Mitterrand... qui allait poser le poignard, ou de Chirac, là, qui allait poser le poignard des jeunesses hitlériennes. Alors, Erika, allez, je le mets. Donc voilà, là, on va faire un exercice d'ASMR. Je vous mets Erika, et pendant ce temps, vous pensez au poignard. Allez, c'est parti. Et ouais, bande de merde, ouais, ouais. Vous avez pris du Erika, ouais. Parce qu'à force de mentir et de nous faire vivre dans une république de manipulateurs de merde, ça va finir avec du Erika. Et on va tous s'en barrer. Putain de merde. Bref. Donc, je pense qu'effectivement, Le Pen a torturé pendant la guerre d'Algérie au même titre que tout le monde. D'accord? Au même titre que tout le monde, au même titre que mon grand-père. Au même titre que les mecs du FLNA. Et au même titre que toutes les guerres. Voilà. Et au même titre que la Houma partout dans le monde. Voilà. Ok? Bon. Ensuite, les polémiques qui restent, c'est des phrases qui ont été isolées parce qu'en fait, il y avait des journalistes de merde qui lui cassaient les couilles toute la journée, gna 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 gna, et qui le poussaient à bout. Le mec, c'est un ancien combattant, il a 81 piges. À la fin, ça partait en durafour à crématoire. Voilà. C'est pas fin, c'est bourrin, c'est un mec qui a fait des guerres, c'est un mec qui avait 80 balais quand on lui cassait les couilles avec ça. Donc à la fin, c'est sorti. À la fin, il y avait des provocations comme ça. Moi-même, j'ai sorti des dingueries. Moi-même, quand on me pousse à bout, je sors des dingueries. C'est normal, c'est humain. Quand tu vois la méchanceté, la mauvaise foi que t'as en face de toi, au bout d'un moment, tu pètes des câbles. Tu pètes des câbles. Tu deviens fou. Donc oui, tu sors des punchlines des punchlines inacceptables. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est inacceptable. Il y a certains trucs qui sont inacceptables. Je suis d'accord. Je vais pas faire de la mauvaise foi. J'appartiens pas à une certaine communauté. La mauvaise foi n'est pas quelque chose d'agréable. Donc oui, Le Pen a fait des dérapages. Il y a des dérapages qui étaient pas fins. Il y a des trucs qui étaient pas fins. Mais ça s'explique. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Quand t'as 25 procès à la minute, quand t'en gagnes un paquet, parce que tous les procès où on l'avait accusé d'avoir torturé les gens, là, il les a gagnés, hein, en diffamation. Sauf quand il y a eu le second tour contre Chirac où il a fallu le salir, et là, ils l'ont fait perdre. D'accord ? Il a gagné contre Libération, il a gagné contre plein de journaux. Hein. Contre Canard Enchaîné, contre plein de journaux. Donc, si vous voulez, à un moment, faut être juste. Faut être juste. Faut avoir un devoir de justesse. Me forcez pas à vous remettre du Erika. Me forcez pas. Bref. Donc je disais, oui, il a fait des provocations, oui. Mais attendez. Des provocations, mais il n'y en a pas toute la journée, des provocations. Dans ce qu'on appelle le rap. Médine, là. Chamelier, numéro 4 575. Il nous a pas fait une petite provocation, là. Je pisse sur la fleur de lys. On est à deux doigts de la menace, quand même. On est sur un truc qui a un sous-texte, à mon avis, assez menaçant, quand même. Bon, est-ce qu'il est inquiété, lui ? Crucifier les laïcars sur le Golgotha, aller faire des concerts de rap au Bataclan. On n'est pas dans la provocation, là ? Ah non, mais j'oubliais, les Français, on peut tout leur faire, en fait. On peut s'essuyer les pieds sur eux. Voilà. Ça, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas d'organisation communautaire puissante, suffisamment puissante pour se faire respecter chez eux. Oui, ça c'est sûr que... Et vous en profitez bien tous d'ailleurs. Donc voilà, donc à un moment, il faut voir ça aussi, quoi. Il faut voir ça aussi pour comprendre le personnage. C'est un type qui a enduré la calomnie toute sa vie, et il est resté monolithique. Et son surnom du menhir lui va à merveille. Ça lui va à merveille. C'est magnifique, cette rectitude, ces couilles. Cette capacité d'encaisser, c'est un encaisseur, Le Pen. Et je suis bien placé pour vous le dire. Et moi, j'ai vécu le dixième de ce que lui, il a vécu. Moi, je me fais calomnier toute la journée. Moi, je me fais calomnier toute la journée depuis 5-6 ans. Lui, ça a été toute sa vie. Traité de nazi, traité de tout ce que vous voulez. Mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et il est resté droit dans ses bottes. Il a professé ce qui est en train de se passer. Et pour ça, il mérite toute notre considération, toute notre admiration, parce qu'il a eu les couilles. Il a eu énormément de couilles. Donc bravo, monsieur Le Pen. Honneur à vous. Et je sais que vous êtes assis à la droite du Christ, là-haut, au ciel. Et vous avez rejoint vos camarades qui sont tombés à Dien Bien Phu. Vous avez rejoint de nombreux Français valables. Et je suis heureux de savoir qu'il y a un paradis et que vous y êtes, monsieur Le Pen. Voilà, donc vous pouvez pas, sans doute pas entendre ce message depuis là où vous êtes, mais moi, le descendant d'Espagnol que la France a bien voulu accueillir, je vous remercie de vous être battu pour ce pays. Voilà. Et je reprends le flambeau à ma petite échelle, je reprends votre flambeau, monsieur Le Pen, voilà. Vous n'avez pas combattu, vous n'avez pas enduré tout ça pour rien. Le combat pour la France continue. On lâchera pas. Il a démarré avec la conversion de Clovis. Il s'est affirmé à Bouvines, il s'est affirmé tant bien que mal, à Crécy, partout. Il s'est concrétisé au siège de Malte. Il s'est perpétué dans la boue de Verdun. Il a continué sur la 5e République quand vous avez dit « J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Mais merci, monsieur Le Pen, merci de dire les termes. Bravo d'avoir mis, d'avoir eu le courage de dénoncer la pédophilie de masse au sein de la Ve République et des francs-maçons qui la composent. Bravo, monsieur Le Pen, bravo d'avoir eu ce courage-là. Vous êtes un héros. Voilà, vous êtes un héros et vous avez su pointer le doigt là où ça fait mal, là où la République ne veut pas mettre le nez, là où se trouve exactement le cœur nucléaire de son fonctionnement. C'est-à-dire la loge et ses pratiques. Et ses pratiques indicibles. Voilà. Donc bravo, monsieur Le Pen. Le combat continue. Les hommes partent, mais d'autres les remplacent. Et ils ne les grands remplacent pas. Ils les remplacent juste. Ah, putain de merde. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, excusez-moi. Alors, maintenant, je vais vous parler. Donc, maintenant qu'on a réhabilité Jean-Marie Le Pen et qu'on a expliqué quel était le contexte, pourquoi est-ce que Jean-Marie Le Pen est Jean-Marie Le Pen et pourquoi Le Pen n'a pas mérité tout ce que les sales médias de gauche, les gauchistes, les médias gauchistes, lui ont mis sur le nez. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aborder la partie un peu plus, on va dire... la partie un peu plus bilan de la présence de Jean-Marie Le Pen. Alors, il faut savoir que s'il y a autant de gens qui sont sortis dans la rue pour aller fêter la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est que Jean-Marie Le Pen a marqué des points monumentaux et que le lepénisme n'est jamais plus vivant qu'aujourd'hui et n'est jamais plus fort qu'aujourd'hui. Et s'ils ont eu besoin d'aller fêter la mort d'un homme de 96 ans sans aucune dignité dans la rue, c'est que ce mec-là pesait terriblement. Quand Arlette Glaguillet va crever, quand Robert Hue, vous savez pas qui c'est Robert Hue, les mecs qui ont moins de 20 ans, vous savez pas qui c'est Robert Hue. Ben Robert Hue, c'était l'adversaire de communiste de Jean-Marie Le Pen à l'époque où Jean-Marie Le Pen était à son prime. Voilà. Hein, vous savez pas qu'il existait. Ben lui, quand il va crever, personne de droite va aller faire la fête dans la rue parce qu'on s'en bat les couilles, parce que ce mec-là ne nous a mis aucun attentat, parce que ce mec-là ne nous a pas fait mal. Les idées de cet homme-là sont déjà mortes. En réalité, cet homme est déjà mort. Puisqu'il n'existe pas dans vos cerveaux. Jean-Marie Le Pen, lui, existe dans vos cerveaux. Donc, il n'est pas mort. L'immortalité de Jean-Marie Le Pen, c'est ça que vous êtes allé fêter dans les rues. C'est son immortalité. Vous êtes allé consacrer historiquement la portée historique de Jean-Marie Le Pen. Vous êtes allé fêter la mort d'un homme dont vous connaissiez l'existence. On ne peut pas fêter la mort d'un homme dont on ne connaît pas l'existence. Et encore moins les hommes dont on se branle. Quand Philippe Poutou va crever, ça fera un petit peu moins de budget pour Fabio Lucci parce que c'est là-bas qu'il s'habille, et c'est tout. Il n'y aura pas de mecs de droite qui vont aller faire des barbecues, être content d'avoir le sida dans les rues en disant « Ouais, génial, Le Pen est mort, on va pouvoir enculer les enfants. » Personne ne va faire ça. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Le Pen, vous vous en battez pas les couilles parce qu'il a explosé mes 68. Il a pris mes 68, il lui a mis un coup de poignard. Et pas un poignard des légitimes hitlériennes, puis celui-là, c'est les services secrets français qui l'ont déposé. Je suis taquin. Hein. Voilà. Le Pen, il vous a rentré des gauches-droites. Et c'est passé à travers la garde. Et vous savez comment on sait que c'est passé à travers la garde ? On regarde l'état du visage à la fin du round. Et l'état du visage de la gauche aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est des vidéos qui bident sur YouTube, avec une droite triomphante. C'est des médias qui doivent être subventionnés parce que sinon, ils s'écroulent. Parce qu'ils sont soi-disant indépendants, mais ils prennent 1,8 million à l'instar de Blast. Et pendant ce temps, vous avez des médias comme La Furia, qui fonctionnent sans appui, sans subvention, et qui explosent tous les journaux en kiosque. Vous avez des créateurs comme moi, comme, désolé, on se nomme jamais en premier, mais comme Le Raptor, comme d'autres, qui font des vidéos qui explosent les compteurs. Votre idéologie 68arde est morte. Elle est morte parce qu'il y a eu des enfants qui ont été sodomisés avec la tête dans un seau de merde, au Corral, en présence de ministres très en vue de la Ve République. Votre idéologie est morte parce que Bernard Tapie, le défenseur des Arabes, s'est retrouvé avec un pistolet sur la tempe, dans son hôtel particulier, avec des grands nique ta mère. Il leur a dit « Mais je vous ai défendu toute ma vie !» et il en a repris une. Parce que c'est ce que Dieu donne aux traîtres. Quand tu as défendu l'immigration de masse toute ta vie, tu finis par l'avoir à ton domicile avec une cagoule et un flingue sur la tempe. Ça, c'est la récompense que donne Dieu aux gens qui défendent les bandits. Je ne suis pas en train de dire que tous les immigrés sont des bandits. Je suis en train de dire que dans l'immigration de masse, Par définition, comme il n'y a pas de sélection, tu récupères tout. Tu récupères des gens merveilleux et tu récupères beaucoup de merde. Et ce beaucoup de merde, ben, t'as fini par le prendre avec un flingue braqué sur la tempe, Bernard Tapie. Et toi, quand t'es mort, la droite n'est pas sortie dehors fêter ta mort. Parce qu'en fait, la fête, tu l'as eu directement à la maison. Tu as fait un débat contre Le Pen rempli de démagogie en défendant la racaille. Donc, tu as reçu ton paiement juste avant de mourir avec un braquage à ton domicile et des tartes dans la gueule par Mohamed et Karim. Qu'est-ce qu'on va les fêter, ça ? C'est dans l'ordre des choses. Les traites finissent très mal et les héros montent au ciel près de Dieu. Voilà. Donc, si vous voulez, le fait que les gens aient fêté la mort de Jean-Marie Le Pen est une victoire de Jean-Marie Le Pen. Le fait que des gens soient allés apporter de la considération à sa mort veut dire qu'ils ont attaché de la considération à sa vie et que sa vie a eu un impact. Au même titre que la bière, les drogues et la 8-6 qu'ils boivent a un impact sur eux. Et d'ailleurs, il fallait regarder les physiques dans le rassemblement. Il y avait deux sortes d'êtres humains. Il y avait des maghrébins apatrides et des blancs déconstruits. Dont un avec un nez énorme, un coup de truite, des jambes de grive et une espèce de par-dessus en léopard de tapineuse. Le mec est habillé comme les prostituées des années 90 de la place Wilson. Voilà. C'est ça qui allait fêter la mort de Le Pen. Donc, et aujourd'hui, tout l'arc politique lui a rendu hommage parce que le vent est en train de tourner. Eh oui, mais fallait pas faire des dingueries comme vous avez faites. Fallait pas valider les crimes de millions de délinquants extra-européens qui ont fini par démembrer des petites filles et poignarder des rugbymen et nous dire que, vous inquiétez pas, il y a un sociologue qui va faire le service après-vente. Ça, plus il faut dépénaliser la pédophilie, tout ça, plus les impôts à 40%, tout ça est en train de fabriquer une société française sous tension. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une société française sous tension et qu'il n'y a plus de débouchés économiques et qu'on est au bord de la banqueroute et qu'il y a de plus en plus de gens qui se rebellent et de corps de métier, notamment les paysans? À l'aube de quoi on est quand il se passe des choses comme ça? D'un écroulement. Et qu'est-ce qui se passe pendant l'écroulement? C'est la force qui s'impose. Qui détient la force aujourd'hui? L'OTAN a perdu contre Vladimir Poutine. Biden a perdu contre Trump. L'AFD est puissant en Allemagne. Vous avez vu les images des manifestations pro-palestiniennes en Allemagne? Les policiers allemands ont commencé à sortir les chiens. Vous savez ce qui se passe quand les Allemands sortent des chiens pour les envoyer sur des minorités? Je ne vous fais pas un dessin. Vous savez ce qui se passe quand un peuple de gens de langue germaine commence à mettre des mecs en uniforme dans les rues avec des chiens et qui commence à mettre des patates indistinctement à des femmes et à des hommes? Vous savez vers quoi on va? Vous la connaissez, la suite. Ce n'est pas l'espagnol Jiménez qui va vous apprendre ce que font les Allemands quand ils se fâchent. Ils ne sont pas catholiques, ils sont protestants. Le protestantisme a une autre gestion des minorités, vous le savez. Allez demander aux Herero en Namibie, allez demander aux Juifs en Allemagne, et vous aurez la réponse. Allez demander aux Indiens d'Amérique centrale. Les zones qui ont été colonisées par des catholiques en Amérique du Nord, donc le Canada, il y a encore des Indiens. Les zones qui n'ont pas été colonisées, mais absorbées par l'Empire espagnol, puisque c'était des vice-royautés, non pas des colonies, en Amérique du Sud, c'est là où vous avez le plus d'indigènes. Quel est le seul endroit d'Amérique où il n'y a plus d'indigènes du tout, où il y en a 0,06% au dernier sondage en comptant les métis? Les États-Unis, qui est un pays à majorité protestante. Moi, je vous le dis, chers amis musulmans, faites très, 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 très attention, parce que quand tu as des Allemands qui décident de faire ce qu'on appelle passer la vitesse, d'accord? Et puis vous savez qu'ils font des berlines très puissantes, il se passe des choses assez considérablement terribles. Là, il y a des images que je n'avais pas vues depuis très 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 longtemps. Elles étaient en noir et blanc la dernière fois qu'on les a vues. Des Allemands en uniforme avec des bergers allemands pour repousser des gens qui viennent d'un bassin sémite qui s'appelle la Palestine, enfin la Judée. Attention les musulmans, attention, attention. À force de tirer sur la corde, vous allez découvrir ce que c'est que le blanc. Et puis pas le meilleur blanc, parce que vous avez le blanc Jiménez, vous avez le blanc Dupont, et puis vous avez l'autre blanc, celui qui s'appelle Dietrich. Attention, L'Allemagne est en train de connaître une progression de l'extrême droite fulgurante. En Italie, il y a des rassemblements avec des bras levés pour l'appel aux morts. Des centaines de milliers d'Italiens qui se réunissent et qui lancent des bras en l'air en disant « presente ». Enfin, en italien, c'est « presente ». Attention, attention, la Pologne est en train d'acquérir beaucoup de puissance. L'OTAN n'a pas réussi à repousser le fascisant Poutine. L'Allemagne a suspendu les accords Schengen. Le Danemark a loué une île pour mettre les immigrés dessus. Attention! Vous savez la petite musique? Vous savez la petite musique qui va retentir prochainement? Vous la connaissez, la petite musique qui va retentir prochainement? Moi, je ne suis pas un sympathisant du nazisme. Je trouve cette idéologie dégueulasse. Je n'aime pas la hiérarchisation des races. Je suis un catholique. Moi, je suis d'obédience royaliste. Je suis pour que les ennemis du royaume soient trépanés, emprisonnés ou bannis. Je ne suis pas pour qu'on les extermine. Je veux dire, en tant que tel et chez eux. Je ne suis pas pour qu'on aille chez eux les exterminer. Chez nous, on les exterminera. Les ennemis du royaume seront exterminés. Si tu es un ennemi du royaume et que tu vis dans le royaume, à un moment, il faut qu'on fasse quelque chose de toi. Mais je ne suis pas un sympathisant. Je ne supporte pas l'idéologie nazie. Je n'aime pas la hiérarchisation des races, c'est anti-catholique, c'est anti-divin. Et moi, je suis catholique. Dieu a fait ses enfants à égalité et il les a fait adapter, il les a également adaptés à leur milieu. Et il leur a donné des aptitudes différentes. Donc je ne suis pas un nazi, mais à force de pousser le bouchon et d'emmerder les Européens, les traiter de racistes toute la journée... alors que vous vivez chez eux, que donc du coup, si la porte a été ouverte à un moment, c'est qu'il n'y a pas de racisme. Il existe du racisme en Europe, hein. Mais je veux dire, le système européen, dans sa large majorité, n'est pas raciste. C'est même un des coins les moins racistes du monde, hein, l'Europe, hein. À force de pousser le bouchon, vous savez comment ça va finir. À force de chier sur nos héros, vous savez comment ça va finir. La petite chanson, vous la connaissez. Je vous la remets quand même. Je vous la remets. Attention! Vous savez, vous avez le nombre, on a les Allemands. Hein. Vous avez le nombre, on a les Allemands. Hein. Attention. Hein. Parce que je vois du triomphalisme, là, sur la natalité. Attention. Hein. Le jour où Anne se réveille, les solutions, elles sont trouvées en une semaine et elles sont appliquées en deux. Attention. Bref, écoutez, ne vous laissez pas désinformer par les médias. Jean-Marie Le Pen n'était pas un nazi, il était contre l'idéologie nazie, il a viré les nazis de son parti, il n'a pas commis les tortures dont on l'accuse en 2002, qui sont complètement abracadabresques avec ce fameux poignard qui ne lui a jamais appartenu. Rendez-lui hommage, soyez ses héritiers idéologiques, battez-vous pour votre nation, quel que soit votre bord, et vive la France. Et vive la France. À très bientôt les amis.